Elsa Lavigne, bonjour.
Bonjour.
Comment je vais être plus fine, je vais être plus fin avec vous qu'avec Jean-Sébastien.
Ah, c'est gentil.
Ça va bien?
Très bien, et vous?
Oui, elle est directrice générale d'Altergo, défi sportif qui s'en vient à la fin du mois. J'imagine qu'il y a des gens qui vont vous contacter pour en reparler. On va peut-être glisser un petit mot, tiens, à la fin de l'entrevue. Mais pour des événements plus inclusifs, moi, c'est ça qui m'intrigue. Est-ce que c'est la première ou la deuxième édition pour les événements inclusifs?
En fait, c'est un peu des deux, je vous dirais, parce qu'on avait déjà un outil qui avait été créé en 2013 et qui avait été ajusté au cours du temps, qui était plus une grille d'évaluation. Donc, c'est un outil qui était un peu difficile à utiliser par des gens qui n'ont pas de connaissance de ce qu'est l'accessibilité universelle. Donc, pour cette édition, c'est une réédition, si on veut, mais on a voulu créer un outil qui est différent, plus facile à utiliser par tout un chacun et puis par un organisateur d'événements qui n'aurait aucune notion.
Là, on parle d'événements publics. Je présume qu'on laisse de côté la fête, l'anniversaire de mon petit garçon qui veut, je sais pas moi, qu'un de ses amis en fauteuil roulant puisse venir à la maison.
Oui, en effet, on parle plus d'événements publics ou privés même, mais ça pourrait être adapté pour une fête d'anniversaire. C'est les mêmes éléments qu'il faudrait prendre en considération. C'est sûr que l'ampleur de l'événement serait pas la même, mais les enjeux sont les mêmes.
Parlons des incontournables en matière d'accessibilité universelle, d'abord.
Ouais. Ah, il y en a de nombreux. Moi, je vous dirais que s'il y avait une recette magique pour créer un événement accessible, probablement que l'ingrédient principal serait la planification. Parce que souvent, on se rend compte en cours de route qu'on n'a pas pensé à telle ou à telle affaire. Donc, en pensant dès le début à ce dont on va avoir besoin pour faire profiter au plus de personnes possible à notre événement, finalement, il faut vraiment s'y prendre assez tôt, parce que beaucoup de choix vont avoir un impact important sur l'accessibilité ultime. Donc, autant le choix du site que le choix de certains partenaires, fournisseurs ou même au niveau des communications vont avoir un impact important.
Je me suis toujours demandé, est-ce que je dois attendre qu'une personne soit en fauteuil roulant pour essayer de rendre mon événement accessible ou je devrais y penser systématiquement? En même temps, c'est sûr que je m'attelle pour bien des difficultés, peut-être inutiles, si personne a besoin que je rende cet événement accessible. Comment voir ça, Elsa? Parce que,
Ben.
à un moment donné, j'ai demandé à une amie, est-ce que tu t'attends à ce que je déménage dans un logement où tu vas pouvoir venir parce que c'est accessible? Puis finalement, elle m'a dit oui, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai vraiment préféré un autre appartement, puis je me sens mal depuis, mais comment on fait ça?
C'est un peu l'histoire du serpent qui se mord la queue, hein. C'est sûr que si on parle du logement, c'est un enjeu qui est complètement différent. Là, on n'a pas forcément une emprise là, sur l'accessibilité de son logement. Mais dans le cadre d'un événement ou d'une infrastructure publique, d'un parc ou quoi que ce soit, si l'événement ou le parc n'est pas accessible, c'est sûr que les personnes qui ont une déficience motrice, par exemple,
Oui, ça c'est
ne
sûr.
pourront pas y accéder. Donc, moi, je vous dirais que oui, on devrait partir du principe que l'objectif est de rendre ça tout accessible dès le début. Puis c'est comme ça qu'on va faire en sorte que les personnes qui ont une limitation fonctionnelle vont pouvoir être incluses au même titre que les autres. Et quelque chose auquel on ne pense pas nécessairement, c'est qu'on se dit qu'on fait de l'accessibilité universelle pour les personnes qui ont une limitation fonctionnelle. Mais ce qui est accessible pour une personne en fauteuil roulant est accessible pour quelqu'un qui utilise ses deux jambes. Donc, à partir du moment où on répond à ce besoin, on répond aux besoins de l'ensemble de la population, on répond aux besoins des personnes qui ont plus de difficultés à se déplacer, par exemple, avec l'âge. Des fois, on perd de la mobilité, des choses comme ça, des parents avec des enfants. Donc, on répond aux besoins d'un grand nombre de citoyens quand on se préoccupe de l'accessibilité universelle.
Est-ce que c'est plus coûteux de louer des endroits qui sont accessibles de façon architecturale?
C'est une très bonne question. Honnêtement, je ne pense pas. Je vous avoue
Parce
que
qu'ils
je
sont
n'ai pas
sûrement
la
plus
réponse.
grands.
Ça dépend. Ça dépend vraiment de à qui appartient l'édifice, mais ça peut être autant des édifices qui appartiennent à la municipalité ou à des hôtels ou des centres de congrès. Mais je ne pense pas que le critère de l'accessibilité fasse en sorte que le prix du site soit plus important.
Bon, je vais prêcher pour ma paroisse parce que souvent on associe l'accessibilité universelle au handicap moteur, mais il n'y a pas que ça.
En effet, il y a donc nous dans ce guide-là justement, on donne des pistes pour chacune des limitations auxquelles l'accès universel peut répondre. Donc, si vous parlez par exemple de déficience visuelle, quelque chose qui va être important, c'est vraiment tout l'aspect de la signalisation, de l'information qui va être disponible et l'aspect des médias substituts. Donc, puis on parle pour la déficience auditive aussi. Souvent, c'est des enjeux qui se rejoignent. Les outils sont pas les mêmes, mais les enjeux sont similaires. Quand on a un programme écrit, par exemple, il faut s'assurer que les personnes puissent le consulter sur un ordinateur avant l'événement avec un document qui soit accessible pour une synthèse vocale. Et si on a une vidéo, par exemple, qui donne de l'information pour une activité ou une autre, c'est important de s'assurer que les personnes qui ont une déficience auditive vont avoir accès aussi à cette information-là, donc d'utiliser du sous-titrage, mais d'utiliser aussi des services d'interprétation visuelle et tactile, par exemple.
Et je reviens à ce que vous disiez au tout début de l'entretien, à savoir, c'est pour ça qu'on doit y penser à la base, qu'on doit vraiment... Ça doit être la première réalité auquel on est confronté et on veut régler, c'est-à-dire il faut que tous puissent y participer. De plus en plus, je remarque, on met des applications pour que les gens puissent savoir, bon, le spectacle est à quelle heure, le spectacle est sur quelle scène et tout, mais c'est vrai qu'on oublie peut-être de rendre l'application accessible pour tous. Donc, par contre, si on se dit dès le départ... Chaque étape sera accessible pour tous, donc ce que l'on appelle l'accessibilité universelle, mais là, il y a moins de risques qu'on oublie quelque chose en chemin.
Exactement. Ouais. Il y a moins de risques qu'on oublie des choses, et aussi moins de risques qu'on dépense de l'argent pour des coûts supplémentaires.
C'est vrai.
Parce qu'un ajustement qui doit être fait la veille, ou en tout cas le jour même de l'événement, va être souvent beaucoup plus coûteux que quelque chose qu'on aura planifié en avance. Et puis, quand on le planifie dès le début, on peut aussi mettre certaines clauses, par exemple, pour des fournisseurs, des appels d'offres, ou des choses comme ça. Vous parliez d'applications. Souvent, les applications, c'est pas les organisateurs de l'événement qui les conçoivent, mais ça va être des fournisseurs
X, Y. Des sous-contactants, ouais.
Donc, si dès le début, on indique dans le cahier des charges que cette application doit être accessible par tous les publics, on a beaucoup plus de chances qu'elle le soit ultimement.
Est-ce qu'Altergo offre des formations justement sur ce sur quoi on discute en ce moment?
Oui, exact. On offre une formation sur l'accessibilité universelle des événements en collaboration avec l'organisme Kéroul, qui offre lui également d'ailleurs de la certification. Donc on travaille en collaboration avec eux. On a d'ailleurs élaboré ce guide en collaboration. L'objectif est qu'on puisse accompagner les organisateurs à toutes les étapes, donc de la planification ou de la sensibilisation si on veut, parce que la formation a un aspect aussi de sensibilisation, un premier contact avec qu'est-ce que ça veut dire organiser un événement accessible. Mmh. On a ensuite un outil qui nous accompagne un peu pas à pas là, en fonction de la chronologie, donc dès la création jusqu'à l'évaluation de l'événement, et Kéroul offre un service de certification. Donc si un organisateur d'événement veut obtenir une certification pour s'assurer que son... Il s'est assuré que son événement est accessible et qu'il veut publiciser cette information-là, Kéroul peut le certifier et puis le mettre dans son catalogue ensuite d'événements qui sont certifiés.
Pour des événements plus inclusifs, le guide, c'est sur le site d'Altergo ou on doit se le procurer en format papier?
C'est sur le site d'Altergo, donc vous trouverez la section ressources. Si vous êtes abonné à notre infolettre, il a aussi fait l'objet d'un article dans la dernière édition de notre infolettre.
Oui, c'est comme ça qu'on l'a vu ici. Ben, merci beaucoup, Elsa. Comme je te dis, sûrement que ce soit moi ou d'autres, là, on reviendra sur le défi qui est à la fin du mois. Peut-être juste dire, bon, avez-vous besoin de bénévoles ou vous avez trouvé votre monde?
Oui, nous avons besoin encore de nombreux bénévoles. Donc, si vous avez un peu de temps à donner entre le 26 avril et le 5 mai, appelez-nous et puis on va voir comment on pourra travailler ensemble.
Oui, je remarque vraiment là, beaucoup de compétitions internationales cette année. Vraiment.
20 pays cette année.
Oui, puis il y a plein de sports. Vraiment, là, c'est... Merci bien, Mme Lavigne.
Ça me fait plaisir. Bonne journée.
Elsa Lavigne, qui est directrice générale du côté de Altergo.